Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Et voici, on est dans la prochaine paracha, qu'elle s'appelle paracha Ré. Depuis quelque temps qu'on parle de cette vision de la Torah, qu'il y a des biens, et le mal, ce qu'est pour rendre, faire changer des mal, elle le rend encore plus bon. Ça veut dire pour comme c'est une vision, parfois on fait des... il y a des choses, que lorsqu'on les limite, et lorsqu'il sort après, il sort beaucoup plus fort, comme si je veux avoir beaucoup d'eau, ou bien fabriquer de l'électricité, c'est parfois là où il y a beaucoup d'eau qui coule, alors on arrête un peu, on met des obstacles, et ça crée une agitation dans l'eau, et ça crée au contraire une énergie. Donc alors parfois, la notion de limiter quelque chose, c'est pour agrandir ses capacités. Donc c'est une vision générale dans la Torah, est-ce que c'est toujours comme ça? Parfois, mais en tout cas, c'est une vision, et c'est une vision qu'il faut utiliser tout le temps, et c'est un sujet qu'on a parlé un petit peu de ça depuis un peu de temps. C'est comme on a dit aussi qu'on est dans cette période de consolation après le Nefav, et le sujet de consolation, c'est pas seulement qu'il faut accepter le mal, le sujet de consolation, de voir dans le mal comment ça m'amène, comment ça nous amène encore plus loin. Alors là aussi, c'est pas toujours facile à les voir, et parfois on n'arrive pas du tout à comprendre le bien dans le mal. Mais en tout cas, ça c'est l'objectif de la Torah, c'est qu'on va aller vers cette direction. Alors, dans notre paracha, qu'elle s'appelle Ré. Ré, ça veut dire voix. Ça veut dire cette fois-ci, Moshe, il dit au peuple d'Israël, voix, je mets devant vous le bien, les bénédictions, et les malédictions, et choisissez. Donc apparemment, l'idée, c'est que, comme il est marqué tout de suite après, ça dépend de vous. Si vous faites bien, vous allez avoir de bien, sinon, le contraire. Mais il y a, selon cette vision chassidique, et pas seulement chassidique, il y a une base, ça veut dire qu'il faut savoir comment on lit la Torah. Alors il y a une idée, tout simplement, en premier niveau, que c'est comme ça qu'on comprend. Tu vas être gentil, tu vas recevoir des bonbons, sinon, je ne veux pas dire ce qu'il va recevoir, mais en tout cas, c'est des choses quelque part qu'on trouve partout. Et dans la Torah aussi, la Torah nous dit, vous allez être gentil, vous allez avoir des bénédictions, et sinon, que Dieu préserve le contraire. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on sait que la Torah est écrite, mais la Torah était aussi traduite. Traduit pour des différentes langues, comme on a vu, il me semble, récemment, que la Torah était traduite par Moshe par 70 langues. Mais les langues qu'on a actuellement, jusqu'à aujourd'hui, on l'utilise même, c'est la traduction de Onkelos en araméen. Mais dans la Torah, il y a deux traductions en araméen, celle de Onkelos. Onkelos, d'ailleurs, c'était... Il a vécu il y a très longtemps, dans cette période vers la destruction du deuxième temple. Et lui, il était le neveu d'un empereur très important dans ce royaume. Et à un moment donné, il commençait à s'interroger et il voulait se convertir, ce que son oncle l'a déconseillé. Il a dit le contraire. Tu dois chercher à le faire du mal, comme le Talmud nous raconte. Finalement, il s'est converti en chouthéisme. Et son oncle, il n'a pas du tout aimé ça. Surtout que c'était un enfant extrêmement intelligent. Il a donné beaucoup d'espoir en lui. Et là, d'un coup, il est devenu juif. Une catastrophe. Et donc, il a envoyé des gens pour essayer, des soldats, pour l'amener, pour revenir à Rome. Et là, Onkelos, donc c'était son nom, il a tellement il a parlé avec ses soldats qu'ils ont décidé eux-mêmes de rester et se convertir. Alors, cette fois-ci, son oncle a pris d'autres soldats et il a dit « Je vous entendais de lui parler. Il est très fort dans la parole, il peut vous convaincre. Pour moi, c'est important absolument que vous reveniez avec lui. Donc, vous ne le parlez pas du tout, vous le prenez, vous le en menottes, ou bien d'autres manières de l'époque, et vous l'amenez vers ici. » Et donc, effectivement, ils sont venus lui prendre, mais lorsqu'on l'a pris par force, donc il était obligé de quitter, avant de quitter, il a embrassé la mezouza à la porte, et ils ont été très intéressés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la mezouza? Pourquoi elle envoie la mezouza? Pourquoi elle est content? Alors il a expliqué cette fois-ci, là d'un coup, il est arrivé à convaincre ses groupes. Et il y a encore un groupe, finalement, il n'est pas arrivé, l'oncle a ramené son neveu. Donc il était obligé de... Il a promis qu'il va lui rien faire. Finalement, il est resté ce qu'il était, donc converti. Et lui, il a traduit la Torah en araméen. Ce qu'il y a de spécial dans ces traductions, on a l'habitude de les lire tous les... Normalement, c'est bon de le faire le vendredi après-midi. Lire la paracha, deux fois la paracha, avec les traductions d'Onkelos. C'est vrai que c'est possible aussi de lire Rashi, parce que la Torah, comme on la lit simplement, on ne la comprend pas toujours, parce que ce n'est pas simple. Donc grâce à Onkelos, on nous éclaire, grâce à Rashi, on nous éclaire. Mais Onkelos, ce qu'il y a de spécial dans ces traditions, c'est que c'est très court. Ça veut dire qu'il est traduit mot à mot. Traduire mot à mot et en même temps traduire bien, c'est pas évident. Et c'est pour ça que si vous voyez Rashi ne traduit pas mot à mot. Il explique le sens, l'idée autour de ça. Donc on est obligé de rajouter beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Par contre, celle d'Onkelos, c'est très juste. Et pourtant, c'est très clair. En tout cas, assez clair. Alors, c'est pour ça qu'on a l'habitude de lire ces traductions tous les Shabbat, donc au lever du Shabbat plutôt, parce que comme ça, la Torah, avec explication, on a l'habitude donc de lire deux fois la Torah et une fois l'explication. Comme ça, c'est clair dans notre tête, parce que Onkelos, il a eu ses plumes, il a pu pouvoir faire ce travail très difficile, expliquer la Torah qui est très compliquée, en 3-10 ans. Il y a un autre qui a traduit la Torah en araméen, il s'appelait Yonatan Ben Uziel. Lui, par contre, il rajoute des mots. Il ne traduit pas mot à mot carrément. Même Onkelos, ce n'est pas vraiment mot à mot, mais relativement, c'est mot à mot. Et il ne rajoute pas des phrases, il ne rajoute pas des choses, on reste fidèlement au texte. Par contre, Yonatan Ben Uziel, parfois, donc cette traduction de Yonatan Ben Uziel, parfois il est obligé de rajouter des mots. Et parmi les exemples, c'est justement notre paracha. Alors, il est marqué dans notre paracha, regardez, ou bien voyez, moi, donc Dieu, je vous donne devant vous aujourd'hui bénédiction et klala. Klala, normalement, c'est malédiction. Donc, je donne devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction. L'idée, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, que vous choisissez votre schéma, donc vous choisissez si vous allez avoir la bénédiction ou le contraire. Alors, tandis que Onkelos traduit, il est fidèle au texte, il traduit tout simplement « Regardez, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction », Yonatan Ben Uziel, qui aussi a traduit la Torah, il change un peu. Il dit, regardez, je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction et le contraire. C'est pas tout à fait le contraire, mais ça veut dire l'opposé de la bénédiction. Ça veut dire qu'il veut pas parler de mal, donc il dit le contraire. D'ailleurs, on sait que c'est bien de garder notre langue et éviter de dire du mal. Et on trouve, ça c'est un exemple dans le Talmud, qu'on dit qu'il faut faire attention à ne pas parler de mal, même par rapport à un animal, qu'il ne se vexe pas, bien sûr, mais quand même on ne dit pas du mal. C'est pour ça que dans l'histoire de Noé, l'histoire des déluges, il est marqué que Noé, il a pris avec lui des animaux cachers, 7 ou 7-7, et d'un animal non cachère, il a pris 2 ou 2, selon les différentes opinions, mais en tout cas, 7 et 2. Pour les cachères, il a pris 7, et les non cachères, il a pris 2. Il les a cachés dans cette arche. Donc la Torah nous dit qu'il a pris de l'animal cachère et l'animal non cachère. Elle n'a pas dit clairement un animal tamé, ce que s'appelle au niveau le non cachère. On utilise le non cachère. Et de là, on apprend qu'il faut faire attention, même quand on parle du mal, on est obligé de parler du mal, mais il faut savoir comment dire. Quand je parle à un enfant qui ne se comporte pas bien, je peux lui dire « tu es méchant », je peux lui dire « tu n'es pas gentil ». Alors ça, c'est une manière, c'est très éducatif d'éviter de dire « tu es méchant ». Surtout que selon certains, quand on dit à un enfant quelque chose, finalement il le développe, donc je n'ai rien gagné, le contraire. Donc il faut faire attention à dire maximum, il faut voir quand on dit, quand on ne dit pas, il ne faut pas dire comme ça facilement des choses, il faut mesurer, il faut quelque part peser ses mots, mais quand même lorsqu'on décide qu'il faut dire quelque chose de dur, au lieu de dire tu es méchant, il faut plutôt dire tu n'es pas gentil, ou bien des choses qui ressemblent. Alors là aussi, on a vu chez le rabbi de Lubavitch qu'il a fait attention en extrémité de ne pas parler de mal, même quand il faut. Faut utiliser ces méthodes, détourner les mots pour ne pas dire de mal, c'est vraiment très intéressant. Donc ça c'est la vision de la Torah. Sauf, il est marqué comme ça, que sauf lorsque je dois dire les choses claires. Alors, c'est vrai qu'il faut éviter de dire les choses mal, mais lorsque je n'ai pas le choix, les choses doivent être claires, là, par contre, je dis les choses clairement, même si que je blesse, même si que je dis les choses que j'essaie d'éviter. Mais si je peux éviter, alors à ce moment-là, il faut dire clairement, il faut dire pas clairement, donc il faut rajouter des mots pour ne pas dire les choses mauvaises. Donc ça, c'est une idée générale. Et là, dans notre cas, on comprend bien que l'onkelus, donc lui, qu'il est très fidèle au mot, et il est très court, donc la traduction exacte pour dire « je mets devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction », donc il traduit « malédiction ». Par contre, Léonatan Ben Uziel, qu'il est un petit peu, il est moins bavard sur les mots, il rajoute quand même par-ci et par-là quelques phrases, pour que le texte soit plus clair. Alors lui, il au lieu de dire je mets devant vous aujourd'hui bénédiction et malédiction, il dit bénédiction et le contraire, ou bien bénédiction et l'opposé. Alors, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi, il y a une autre idée. C'est que si, selon le regard profond qu'on a dans la Torah, il n'y a pas de malédiction. La malédiction, comme on a déjà parlé depuis quelques temps, c'est que pour un bon but. Donc, ce n'est pas une malédiction. Seulement que ça dépend de nous. Si comme quelqu'un, on a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Je donne à quelqu'un quelque chose. Il peut prendre un verre et le récupérer. Par contre, il peut ne pas prendre un verre et devenir mouillé. Et à ce moment-là, ce n'est pas très, très agréable. Donc alors, la personne, celui qui a donné, il a donné une bénédiction, mais à l'arrivée, ce n'est pas une bénédiction, c'est un problème. Donc alors, c'est comme ça qu'on regarde, c'est comme ça que doit être, on regarde sur la vie, sur la vie que Dieu il a créée. Alors encore une fois, même si que parfois c'est très très difficile de voir le bon dans le mal, mais lorsqu'on regarde comme ça, pas mal de fois, on voit le bon dans le mal. Donc c'est pour ça que lui, il traduit la Torah de telle manière, au lieu de dire « Je vous donne devant vous les bénédictions et les malédictions », on dit « Je vous donne devant vous les bénédictions et le contraire ». Donc à vous de choisir, bien sûr que Dieu nous conseille de choisir le bien, mais il y a une autre possibilité de choisir autre chose. Mais il faut savoir que de toute façon, ce que Dieu nous donne, c'est une bénédiction. Et parfois, on a mal choisi, donc la bénédiction, elle a mal tourné. Ok, ça c'est d'une façon très générale, mais à partir de là, si on regarde comme ça, alors à partir de là, on voit que Dieu, il ne veut pas nous donner des mal. Pour les raisons qu'il connaît lui-même, il a donné la possibilité de libre arbitre de choisir entre bien et le mal, mais c'est comme un père que même si lorsqu'il donne des épreuves à son fils, il veut bien que le fils il surmonte les épreuves, et finalement, le contraire, le mal va devenir, il va devenir un champion parce qu'il a réussi, même quand ça fait mal. Donc alors ça c'est cette vision. Il y a plusieurs années que le rabbi a dit qu'on rentre dans cette période déjà, que la bénédiction elle doit être plutôt que la malédiction, parce que le monde a traversé des moments très difficiles. Alors on est dans cette période, il faut bien voir et bien utiliser ces moments de bénédiction. Bien sûr qu'on a besoin de cette explication, parce que où est-ce qu'on le voit? Alors peut-être on va revenir sur cette notion un petit peu plus tard, mais aujourd'hui il faut regarder le monde d'une autre manière, plus que jamais, d'une manière positive et tirer le positif. Maintenant, un autre sujet qui nous concerne cette fois-ci, on rentre dans un mois très particulier, le mois de Elul. Alors c'est Shabbat, donc le Shabbat Re'eh, c'est aussi le Shabbat qui bénit le mois d'Elul. On sait que Shabbat, c'est un jour où Dieu il bénit la semaine d'après. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qu'on fait lorsqu'on doit, il y a des choses qui se passent dans la semaine. Alors Shabbat avant, on se prépare, on fait des choses, on se prépare pas matériellement, on se prépare plutôt spirituellement. Shabbat avant, on fait des choses. Et parmi les choses qu'on fait, c'est monter à la Torah. Par exemple, quelqu'un qui a un mariage, alors Shabbat avant, il monte à la Torah pour monter, parce que Shabbat bénit la semaine qui vient après. Donc c'est Shabbat, elle bénit le mois qui vient après. Et que le lendemain de Shabbat, ça va être le jour de Rosh Chodesh, le début du mois, le mois d'Elul. Le mois d'Elul, d'une part, c'est le mois qui on fait le compte pour ce qui s'est passé dans l'année. Pour, bien sûr, si on fait le compte, c'est pour améliorer, comme chaque personne qui a des affaires, ou bien dans la vie en général, de temps en temps, il faut faire un compte, mais le compte, c'est pas pour pleurer que ça ne va pas, le compte c'est pour améliorer. Donc ça c'est le but de ce mois d'Elul. Ce qu'on a l'habitude de faire pendant ce mois, alors donc effectivement on fait le compte, et on essaie d'améliorer pas mal de choses, dans l'étude de la Torah, étudier un petit peu mieux, dans le comportement avec les autres, pour les gens nécessités ou non, il faut aider, et donne les notions aussi de mitzvot. On rajoute dans les mitzvot qu'on fait. On fait mieux. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on fait que toute l'année on ne fait pas. On rajoute cette période. On arrange ce qui ne va pas. Donc ça, c'est la notion de tshuva. Et aussi, on rajoute dans la prière. C'est pour ça qu'il y a des psaumes qu'on rajoute pendant cette période. Et puisqu'on attend cette période messianique, donc ce temps, on essaye de faire, de trouver, de faire, d'avancer le monde vers cette période messianique. Et toutes ces cinq notions, donc rajoutées dans la Torah, rajoutées dans les bonnes actions, dans la prière, donne à arranger ce qui ne va pas, et aussi attend le temps messianique, avancer le monde vers le temps messianique, que ça dépend de chacun, parce que chaque acte de chaque personne compte, alors à ce moment-là, on va arriver à... Oui, ce que je voulais dire, c'est donc ces cinq notions, on les trouve dans l'initiale des mots Elul. Comme il est marqué dans certains livres, et que le mot Elul, donc on trouve l'initial des mots, par exemple, Anil et Dodi, Vedodili, etc., que je passe. Là, parmi les choses d'Elul aussi, il y a l'habitude, comme on a dit, de rajouter dans la prière, mais dans la communauté Sfarad, il y a cette, à l'époque, il y a d'autres Ashkenaz qui le font, mais nous, on ne le fait pas, mais les Sfarad, ils le font tous. Donc, ils ont cette habitude que depuis le début du mois d'Elul, on rajoute dans une prière qui s'appelle les Slichot. Slichot, c'est une notion de pardon d'une part, mais il y a une ambiance spéciale, on se lève tôt, et il y a des chants. Mais en même temps, l'essentiel de ça, c'est le moment de la lecture de ce qui s'appelle les 13 attributions de miséricorde. Donc ça veut dire qu'il y a deux manières comment Dieu se comporte avec nous. D'une part, elle se comporte, vous avez fait, je vous donne, etc. Mais il y a une autre notion de miséricorde, et c'est moi. Il y a plutôt cette notion de miséricorde, comme on va revenir à ça, qu'est-ce que c'est et pourquoi. Maintenant, il y a donc dans ce moi, parmi les initiales des mots Elul, donc le moi qui rentre, il y a cette... mot qui donc ça fait le mot de Elul, Anil et Dodi et Dodili. Anil et Dodi, moi vers mon bien-aimé et mon bien-aimé vers moi. Donc ça veut dire que c'est le moi où on, quelque part on arrange nos relations avec Dieu, mais de telle manière qu'Anil et Dodi et Dodili, moi vers lui et lui vers moi. Donc il y a plusieurs significations. D'une façon générale, on dit qu'il y a une période, cette notion est basée sur le cantique des cantiques. Dans le cantique des cantiques, il y a deux fois, une fois il est marqué moi vers lui et lui vers moi, et parfois il dit comme ça, lui vers moi et moi vers lui. Qui fait le premier pas? Quand parfois il y a un problème entre deux personnes, ici on ne parle pas forcément de problème, alors qui fait le premier pas? Alors parfois c'est là qui fait le premier pas et l'autre il suit, et parfois, c'est l'autre qui fait le premier pas et l'autre, il suit. Et quand on dit « Anil et Dodi et Dodili », ça veut dire que moi, je commence. Et lui, il me suit. Et quand on dit « Dodili et Anilo », ça veut dire que c'est lui qui commence et moi, je suis. Et on dit que c'est deux périodes de l'année. La période du mois de Nissan, de la fête de Pessah, alors on dit plutôt « Mon bien-aimé vers moi » parce que lui, il a commencé. Il nous a sortis de l'Égypte. Et ensuite, il nous a demandé de compter. Compter, ce n'est pas seulement compter, ça veut dire d'avancer. Lui, il a fait le premier pas, il a donné le crédit. Et ensuite, c'est à nous d'avancer petit à petit et quelque part payer le crédit ou bien d'autres visions, d'autres manières de voir les choses. Mais ça, c'est la période de Nissan, donc lui et ensuite nous. Mais dans la période de Tishri, qui commence déjà par Elul, alors on dit le contraire. Lui, vers nous vers lui et lui vers nous. Et c'est pour ça que dans cette période, c'est une période qu'on demande à nous de faire les pas. Donc moi, je vais vers lui et à ce moment-là, lui va vers moi. Et il y a d'autres manières de voir les choses, mais c'est très intéressant parce que dans la vie, il y a savoir recevoir, mais il faut aussi savoir donner. Et les deux choses sont, ils vont ensemble. Si quelqu'un il reçoit seulement, ça ne va pas. Si quelqu'un qui le donne seulement, ça ne va pas, parce que dans la vie, on peut recevoir, on peut donner, il faut avoir les deux choses. Dans le soudaïsme, il y a deux bases. Il y a une base de faire d'efforts. Comme on parle de temps en temps, l'homme il est là pour faire d'efforts. Il y a aussi une base que Dieu nous donne de force, Dieu nous donne des cadeaux, quelque part, Dieu nous donne des forces, il faut les utiliser. Donc alors, puisqu'on est dans cette période où on fait les comptes de toute l'année, Alors, il y a deux comptes. Est-ce que j'ai fait le nécessaire? Est-ce que j'ai fait mon travail? Et d'une autre part, est-ce que j'ai utilisé le crédit qu'on me donnait? Parce que dans la vie, il y a parfois que j'ai fait un effort. Mais si je veux faire un effort moi seul, c'est bon. Mais ce n'est pas forcément que je vais avancer beaucoup. Parce que c'est vrai que le but, c'est que l'homme il fasse le nécessaire, il fasse l'effort. Mais ce n'est pas forcément qu'il va beaucoup réussir. Donc, alors à ce moment-là, on lui donne aussi des possibilités, des bénédictions. Et c'est ça qu'on dit, que le mois d'Elul, il faut faire les deux comptes. Il faut faire le compte, qu'est-ce qui se passe avec moi, ce que moi je dois donner, et qu'est-ce qui se passe avec ce que Dieu me donne, est-ce que je l'utilise. De façon générale, on dit comme ça que, ça c'est une explication du Rabbi Lubavitch, il développe cette idée, en tout cas, brièvement dire comme ça, que toute l'année, on est plutôt dans la notion de faire d'efforts. Il y a des périodes spéciales comme Shabbat, que c'est une période où on ne fait pas trop d'efforts, il faut savoir profiter de ce qu'on nous donne, ou bien les fêtes, c'est pareil. Ou bien, autrement, on voit comme ça que les mois d'hiver, c'est plutôt des mois d'efforts, les mois d'été, c'est plutôt des mois de profit. Donc, mois d'hiver, normalement, comme dans la nature, on produit. Les mois d'été, on récolte. Donc, alors, celui qui produit et il ne récolte pas, que la récolte, normalement, est liée avec la bénédiction divine. Il y avait assez d'eau, il y avait assez de pluie. Donc, il faut profiter. Ça ne suffit pas de faire d'efforts, il faut aussi profiter de ce qu'on donne. Et quelque part, c'est ça, la notion de cette période, on est dans cette notion où il faut quelque part faire le compte, qu'est-ce qui se passe avec ce que s'appelle Ani le Dodi et qu'est-ce qui se passe avec ce que s'appelle le Dodili. Qu'est-ce qui se passe avec l'effort que moi je dois faire? Qu'est-ce qui se passe avec les bénédictions qu'on me donne, est-ce que je l'utilise? Donc, c'est ça un petit peu l'idée de cette période, à savoir que d'une part, c'est vrai que je dois faire l'effort, mais si je n'ai pas fait l'effort, donc dans certains domaines, je ne vais pas avoir de résultats. Mais à côté de ça, Dieu nous a organisé la possibilité de pouvoir rattraper. Ce n'est pas seulement rattrapage, mais aussi une notion de rattrapage. Cette idée de tu n'as pas fait assez d'efforts, il y a cette notion qui vient de là. Parfois, on dit fais un petit effort, mais en tout cas, c'est un petit effort. Donc, alors, dans la vision juive, il y a cette dualité dans la vie. Il y a d'une part, c'est vrai que l'homme il doit faire un effort, l'homme il est là pour faire l'effort. Adam l'a mal yulad, comme ça il est marqué. Donc, l'homme il est là pour se fatiguer quelque part. Mais d'une autre part, même si il n'a pas fait son devoir, Dieu il est là pour quelque part combler, rattraper ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est une période, cette période encore une fois, qu'il faut utiliser cette période, il faut, de toute façon, c'est très humain que l'homme, de temps en temps, il fait le compte, qu'est-ce que va, qu'est-ce que va pas, mais aussi il doit faire le compte dans deux domaines. Est-ce que j'ai fait assez d'efforts? Si je n'ai pas fait assez d'efforts, j'essaie de rattraper. Et aussi, est-ce que j'utilise la bénédiction qu'on nous donne par là-haut? Parce que Dieu nous donne des bénédictions, malgré le fait que parfois on ne fait pas les choses. Donc, il faut utiliser cette période pour avancer, pour préparer à l'année qui vient, pour avoir une bonne et douce année. Et c'est déjà, on a l'habitude déjà de souhaiter, depuis 15 av, souhaiter une bonne et douce année pour l'année prochaine, une année de réussite dans tous les domaines, et surtout ce qu'on attend. Il y a trop de guerres dans le monde, et selon la vision aussi juive, il y aura un moment, et le moment il est proche, que finalement on va trouver une solution, on va trouver la paix dans le monde, et c'est plutôt lié avec cette notion messianique, très prochainement. Merci pour votre écoute, une bonne année et à la semaine prochaine.
fêtes et cultures juives avec Raïm Slonim sur le 97.1.